Matière à penser, Serge Tisseron.
Matière à penser, des machines et des hommes. Et aujourd'hui, pour continuer à mieux comprendre chaque vendredi comment les objets que l'homme invente modifient la relation que nous entretenons avec nous-mêmes et avec les autres, je reçois Antonio Casilli.
Bonsoir, Serge Tisseron.
Alors merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes sociologue et je vous ai invité pour que vous nous aidiez à réfléchir aux évolutions d'Internet depuis 10 ans. Vous avez en effet écrit en 2010 un livre qui s'appelle « Les liaisons numériques » dont la tonalité était relativement rassurante et depuis le Net a beaucoup évolué et vous allez nous aider à faire le point. Alors d'abord, je vous propose qu'on parle un petit peu de vos travaux passés et de ce qu'étaient les réseaux hier, puisqu'elles semblaient porteuses d'un nouveau rapport au territoire, d'un nouveau rapport à la sociabilité, voire à la politique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous développer tout cela ?
L'ouvrage auquel vous faites référence est un ouvrage que je considère en effet surtout comme une synthèse d'études qui ont été menées entre les années 90 et 2000 par d'autres que moi et parfois par moi-même et qui porte en gros sur 3 aspects particuliers, donc l'espace, le corps et les structures sociales.
Alors on va commencer par l'espace si vous voulez bien.
L'espace était quelque chose qui d'entrée frappait par la puissance d'évocation dans la culture d'Internet depuis les années 90. Le fait qu'un certain nombre de métaphores aient été utilisées à tort et à travers parfois pour indiquer notre manière de nous relationner à la matière numérique, par exemple le fait de parler, que sais-je, de frontières électroniques à un moment, et encore aujourd'hui on a la Electronic Frontier Foundation qui est encore un très fort lobby citoyen pour les libertés numériques, ou le fait d'avoir insisté par exemple sur le fait que l'Internet pouvait être envisagé comme une étendue liquide, donc on parle justement de naviguer, de surfer, donc des métaphores marines, ou parfois d'avoir fait allusion au fait à l'espace clos, oui. Comme homepage, donc la page d'accueil, l'hébergement, on a parlé de Windows, la fenêtre.
Oui, voilà. Oui. Vous nous dites qu'avec Internet, on est à la fois chez soi, donc dans sa famille, avec ses amis, et puis en même temps, on est dans le vaste monde d'Internet, on est à la fois dans l'un et dans l'autre, et qu'est-ce que ça change en pratique ?
Ça change en pratique le fait qu'on est constamment en train de se relationner à un espace double. Et cet espace double est celui qui caractérise notre expérience au quotidien. Et de ce point de vue-là, je trouve que le changement et les évolutions des usages tout au long des années 2010 n'a fait que confirmer l'intuition qui était contenue dans cet ouvrage « Les liaisons numériques » de 2010, le fait qu'à chaque fois, nous, on est en train de vivre dans deux espaces. Donc, par exemple, le fait de traverser la ville chaque jour dans un espace concret et en même temps être constamment renvoyé à un espace autre, qui est par exemple celui de nos mails ou nos messages sur WhatsApp, qui nous situe ailleurs, dans un ailleurs qui parfois n'est pas vraiment un ailleurs éloigné comme on l'imaginait dans les années 90. Parce qu'on avait toujours tendance à se dire, Internet, c'est l'occasion de rentrer en contact avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Au contraire, Internet est avant tout une manière de rentrer en contact avec des gens qui sont déjà autour de nous, en proximité.
Et c'est là que vous évoquez aussi les changements dans le rapport au corps.
Les changements au rapport au corps, là c'est encore mieux que dans les usages, on le voit dans les dispositifs. Les dispositifs, depuis les années 80, sont imaginés comme des objets qui doivent coller au corps. On n'est plus, depuis un moment, dans la vision majestueuse, monumentale des technologies du XXe siècle, qui étaient des technologies surplombantes, qui étaient des technologies impressionnantes, qui ne pouvaient pas se rapporter à l'homme, sauf si l'homme ne les traversait, voire les habitait. Au contraire, maintenant, les technologies, autant pour des questions de miniaturisation que pour des questions, effectivement, de tendance à devenir intime, ont tendance à vraiment coller à la peau. Donc c'est le smartphone qui est toujours dans notre poche et ou alors en effet d'autres dispositifs encore plus petits, donc les wearables, donc c'est les objets qu'on a sur nous.
Oui, c'est un peu l'hybridation qui est en train d'arriver, d'abord extérieur à nous, puis sur nous, bientôt à l'intérieur de nous, Antonio Casilli.
Pas vraiment bientôt, ce sont déjà dedans, si vous pensez justement aux objets connectés, la frontière de l'objet connecté et la frontière du corps humain même. Donc je ne veux pas rentrer forcément dans les questions de cyborg, donc l'idée que depuis les années 60, on cherche à mener des expériences qui consistent à introduire des capsules, des puces subcutanées et qui nous mettent en effet face à un dépassement de la frontière de la peau. Hein. Mais les objets connectés aujourd'hui, bon, je pense par exemple aux usages sexuels, même des objets connectés, qui sont faits pour en même temps être à l'intérieur des personnes qui s'en servent et en même temps pour transmettre vers l'extérieur. Donc en effet c'est un exemple pas des plus extrêmes certainement, mais un exemple qui devient important aujourd'hui.
Et alors le troisième point des bouleversements internet que vous abordez dans votre ouvrage de 2010, c'est la question de la sociabilité. Et là déjà vous citez un travail de Robert Putnam des années 2000 qui dit que il y a de plus en plus de joueurs de bowling et de moins en moins de communautés de joueurs de bowling, c'est-à-dire que il y aurait plus de solitude, moins de communautés.
Oui, c'était donc quelque chose, enfin un sujet que Robert Putnam, qui est un scientifique, spécialiste des sciences politiques plutôt, avait commencé à traiter dans les années 90 déjà la question de la communauté et surtout sa posture consistait à dire aujourd'hui face à l'explosion des médias électroniques, on a une tendance à l'atomisation sociale qui fait en sorte que même des pratiques traditionnellement associées à un sens de communauté, donc il cite l'exemple du bowling qui jusqu'aux années 50 et 60 aux États-Unis était une histoire de team, donc d'équipe de personnes qui se réunissaient, qui choisissaient leur uniforme.
Le cinéma américain de cette époque en témoigne d'ailleurs largement.
Ouais, exactement.
Pas de rassemblement sans qu'on aille jouer ensemble au bowling.
Exactement, et jouer ensemble, c'était ça l'expérience du bowling. Et par contre, cette expérience s'est transformée, lui il l'utilise un peu comme un prétexte ou une métaphore, s'est transformée dans une expérience atomisée, individualisée, dans laquelle on se rend au bowling pour jouer tout seul. Et donc lui, il fait partie de ceux qui ont une vision pessimiste vis-à-vis de la question de la communauté. Où est passée la communauté à l'heure d'Internet? Parce que son verdict est sans appel. Il dit Internet est la mort de la communauté, alors que d'autres, que je cite et dont je débatte les thèses dans cet ouvrage, comme par exemple Barry Wellman, qui est un sociologue canadien, insiste beaucoup sur le fait qu'au contraire, Internet peut représenter une impulsion nouvelle pour le sens de communauté.
Oui. Alors, Robert Putnam, c'est 2000, hein, Barry Wellman, c'est 1999, on est en 2017, alors lequel a eu le plus raison, à votre avis, le pessimiste Robert Putnam ou plutôt, disons, le non-pessimiste Barry Wellman?
Alors, on est carrément en 2018, Serge Tisseron, je vous signale.
Oui, c'est vrai.
Pour ne pas donner l'impression qu'on a enregistré cette...
Voilà, c'est vrai, voilà. C'est vrai.
Donc, moi je trouve que Barry Wellman est celui qui a toujours eu la vision la plus juste. La vision la plus juste au sens de d'abord être quelqu'un qui est ancré à des études empiriques, qui est toujours confronté aux usages, et qui ne se limite pas exclusivement à regarder un idéal ou un idéal type. Son travail consiste à dire, en effet, à envisager le changement que nos sociétés ont subi comme un passage d'un monde de petites boîtes. Donc, il parlait de la métaphore des little boxes, donc nos communautés d'antan qui étaient caractérisées par des liens forts, par une forte cohésion sociale, par des sens de loyauté et parce que en sociologie, on appelle l'homophilie, qui veut dire le fait de se réunir entre personnes qui se rassemblent.
Qui se ressemblent.
Oui, qui se ressemblent.
Les latins disaient déjà asinum, asinum fricat. Hein,
ouais, exactement. De ou similia similibus.
Voilà.
Et donc, pour revenir à Barry Wellman, le changement serait, serait quelque chose qui va maintenant dans le sens de non pas faire exploser les boîtes, ouvrir les boîtes, mais créer des passerelles entre les différentes communautés. Donc, il parle maintenant d'un individualisme, un réseau qui est basé sur une dimension qu'il appelle comme une dimension globale, donc globale et locale en même temps. Et il y a une manière de faire exister les communautés et le sens de communauté, en précisant que quand même aux États-Unis et au Canada, le mot communauté n'est pas chargé négativement comme ici en France. La communauté ne s'oppose pas à la société. La communauté est une partie intégrante de la société. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une possibilité de la faire survivre, développer, voire même un sens de communauté nouvelle qui serait une communauté donc médiatisée, intermédiée par les plateformes numériques que nous utilisons aujourd'hui. Et il y a beaucoup de ça. C'est au moins cette volonté-là. Après, en 2018, je dirais, l'élément qu'on n'a pas pris en compte suffisamment est la présence, ou plutôt l'action disruptive, j'insiste sur ce terme un peu hybride, un peu barbare, des grandes plateformes commerciales, ces plateformes mondes comme YouTube, comme Google, comme Facebook, comme Twitter, qui ont une puissance de prescription et une puissance de mise au travail des gens qui sont en même temps en train d'exclure les gens et de cette communauté et de les mettre dans une communauté, de les situer dans une communauté qui est surdéterminée par la plateforme même, et qui est une communauté orientée d'un point de vue commercial.
Oui, bien sûr, on va en reparler dans quelques minutes. Mais déjà, dans votre étude de 2010, vous notez que les espaces Internet offrent peu de perméabilité, c'est-à-dire qu'il y aurait peu de métissage.
Peu de métissage. En fait,
que les communautés sont plutôt construites sur un mode homophile,
alors,
pour reprendre votre mot, et que ces communautés peuvent en effet avoir une existence assez importante, être en lien avec le concret quotidien des individus, mais que ces communautés existent plutôt de manière parallèle et se mélangent peu.
Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut préciser aujourd'hui quelque chose qui était mon message de cet ouvrage, de Liaison numérique. C'était un message qui consistait à dire les médias sociaux et les plateformes sociales d'Internet sont utilisées par les utilisateurs pour optimiser. J'insiste sur la puissance même étymologique de ce mot, optimiser leur capital social. Pas forcément au sens économique, comme les économistes parlent d'optimisation du profit par rapport au coût, par exemple. Mais optimiser, c'est-à-dire trouver le juste équilibre, du moins c'est ça l'intention des usagers, entre les liens forts et les liens faibles, entre la cohésion sociale et la reliance, ou alors le fait de se connecter avec des nouveaux milieux, et donc s'ouvrir à des nouveaux, à d'autres horizons. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, reste en termes d'intention, en termes de promesses, en termes d'espoir derrière les plateformes d'aujourd'hui.
Mais vous employez quand même une expression assez forte. Vous parlez de coexistence par défaut.
Je parle de coexistence assistée par les ordinateurs. Donc la coexistence est quand même un processus qui se réalise parce qu'il y a une volonté des usagers même.
Et je crois que vous prenez un petit peu de distance par rapport aux travaux de Dominique Cardon, qui écrit notamment la chose suivante. Il écrit « Des vertus démocratiques, des règles de base d'une culture politique nouvelle se dessinent ». Je crois que vous êtes plus réservé par rapport à cette affirmation.
Les travaux de Dominique Cardon ont été évidemment très importants comme point de départ. Et la question, par exemple, le fait qu'il ait insisté dans plusieurs ouvrages, donc son ouvrage sur la démocratie Internet et même dans d'autres, sur les vertus démocratiques d'Internet, pour moi, est une belle hypothèse à tester.
D'accord.
Donc une belle hypothèse à tester dans la mesure où je précise quelle est ma posture. Ma posture est très attentive aux éléments de conflit. aux éléments de lutte qui se font autour de ces modes de coexistence. Parce que je ne voudrais pas non plus donner l'impression que autant dans le livre, dans ce livre de 2010 que dans d'autres ouvrages, je suis un iréniste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit à la paix par défaut. Au contraire, je pense que le défaut de la coexistence est le conflit, est ce que les Grecs appelaient la stasis, c'est-à-dire la confrontation de points de vue parfois conflictuels qui doivent trouver une manière de se composer. Et donc de trouver à la fin d'une lutte ou alors d'un processus itératif une manière d'exister ensemble. Et donc ceci veut dire que c'est moins un dialogue démocratique qu'une dialectique, même au sens vraiment d'une dialectique conflictuelle.
Déjà en 2010, quand vous avez publié votre livre, il y avait beaucoup d'inquiétudes autour du fait que les médias numériques amènent les gens à moins se rencontrer en réalité. Et vous, déjà dans ce livre, vous citez une étude réalisée par Valérie Gobi, experte de communication de masse, qui met en relation le fait que les gens se rencontrent moins, notamment les adolescents. Elle met cela en relation non pas avec l'utilisation des outils numériques, mais avec l'absence ou le défaut d'espace physique disponible à la fois privé et public. Est-ce que vous pouvez nous préciser cela, Antonio Casilli?
Cette partie-là était, si vous voulez, la partie la plus tisséronienne de mon livre, on va dire comme ça, parce que justement Serge Tisseron, en tant que lecteur et évidemment et étudiant même de votre ouvrage, j'ai cherché moi-même à trouver une approche aux questions d'intimité, extimité, donc des sujets que vous avez bien évidemment développés avant et mieux que moi, en insistant aussi sur comment il s'articule avec parfois des éléments extrêmement concrets, par exemple les conditions physiques, de l'habitat, du logement même des gens et des plus jeunes utilisateurs en particulier, et le fait que, surtout dans le contexte des usages urbains, on assiste aujourd'hui à une tendance à une restriction des espaces de vie, autant des espaces personnels que des espaces publics, et face à ça, une surcompensation parfois via la recherche d'espaces connectés. Donc, en l'occurrence, le fait que les agoras ou même les espaces de vie individuels soient de plus en plus chers, inaccessibles, et qu'en plus la perspective pour nos enfants et pour les générations à venir ne soit pas vraiment rose, pousse certains utilisateurs, mais ça depuis plusieurs décennies, à chercher des modes d'expression et des modes de coexistence, par exemple, ou des espaces même de coexistence et de confrontation à travers les forums en ligne, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias numériques et les plateformes qu'on connaît aujourd'hui.
Vous savez, Antonio Casilli, qu'il y a aujourd'hui des attaques très violentes contre l'utilisation des réseaux numériques, notamment par les jeunes, et je pense notamment aux études de Jean Twenge, et à ma connaissance, elle ne prend jamais en compte justement ce que vous êtes en train d'évoquer, la raréfaction des espaces d'échange physique. Qu'est-ce que vous pensez de ces inquiétudes, notamment le fait qu'elle évoque la solitude grandissante des jeunes, la réduction de leurs rencontres directes, le fait qu'ils passent moins de temps dans leurs activités amoureuses et sexuelles? Est-ce que vous partagez son inquiétude ou est-ce que vous pensez qu'il faut nuancer? Alors, à partir de quelles études, de quelle manière? Je crois que beaucoup de gens sont attentifs à ce que vous allez nous dire, Antonio Casilli.
La question est, pour moi, moins liée au comportement individuel et plus à ce qu'on cherche à faire au niveau des groupes humains et des collectifs humains. De ce point de vue-là, les travaux de Jane Twenge ou d'autres chercheuses, je pense par exemple à Sherry Turkle, laquelle a pris des positions qui ne sont pas éloignées de celles-ci, donc le fait de elle commence par en disant que Internet et les technologies sœurs reconfigurent notre manière d'être en solitude. Ce qui est un peu, si vous voulez, l'envers de ce que je dis moi dans les liaisons numériques. Moi, je dis au contraire qu'elles réconfigurent notre manière de faire société. Donc, grosso modo, on revient à la même chose. Mais en même temps, en creux, on dit la même chose et en même temps, on arrive à des conclusions complètement différentes. Pourquoi on arrive à des conclusions complètement différentes? Parce que ces auteurs-là, comme Jane Twenge ou Sherry Turkle, considèrent que quand même, il y a une sociabilité originaire et que cette sociabilité originaire, évidemment chargée de connotations positives, est la sociabilité en dur, donc le fait de se rencontrer en face à face. À mon sens, elles font l'impasse sur le fait que les êtres humains ont toujours vécu dans des plans symboliques et dans des modes d'existence symboliques en même temps que concrets. Et donc, de ce point de vue-là, la sociabilité intermédiée par les technologies d'information et de la communication n'est pas quelque chose de radicalement différent par rapport à celle qui était intermédiée, que sais-je, par les romans et la presse écrite, ou par exemple, par le récit oral des rhapsodes de l'époque homérique. On peut constamment vivre dans ces deux plans sans pour autant renoncer à l'un des deux. Donc le fait de savoir se rapporter à sa dimension symbolique ne veut pas dire qu'on ignore ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et j'ajouterais par contre aussi qu'il y a aussi un problème lié aux disciplines de ces auteurs, c'est-à-dire par exemple l'insistance sur des études qui se concentrent sur des adolescents qui se rapportent à l'autorité des parents. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a pas mal de tendances à considérer que ces adolescents qui cherchent évidemment à s'émanciper ou à s'individualiser sont constamment en train de se désocialiser en même temps. Alors qu'on sait très bien en sociologie que justement le fait de se socialiser dans une sociabilité primaire, donc celle du groupe primaire d'existence, qui pourrait être la famille, est toujours lié à une deuxième phase dans laquelle on s'ouvre vers d'autres groupes d'êtres humains. Et donc, on va chercher une sociabilité élective.
Est-ce que vous voulez nous dire, Antonio Casilli, qu'on ne pourrait conclure que les adolescents se désocialisent de manière durable que si on savait ce qu'ils vont devenir quand ils auront fini leur adolescence? Et donc, seule une étude longitudinale pourrait nous le dire, qui étudie les adolescents d'aujourd'hui et qui étudiera dans 10 ans les adultes qu'ils seront devenus.
Et pourtant, Serge Tisseron, le fait est que ces adolescents-là ont déjà de la bouteille aujourd'hui, je vais dire. C'est-à-dire que si on avait vraiment voulu effectuer ces études longitudinales, on aurait pu commencer tranquillement dans les années 80, parce que les usages numériques ne sont pas quelque chose des années 2000.
Et alors, Antonio Casilli, pourquoi n'a-t-on pas commencé?
Eh bien, parce que, à mon sens, on a toujours ce problème de réinventer la génération des natifs du numérique à chaque fois qu'on a une nouvelle vague technologique. Je vous dis le fond de ma pensée, au fait. Si, comme je le fais, vous regardez, par exemple, la manière de communiquer des grands groupes industriels qui produisent ces technologies, tous les quelques années, grosso modo, à chaque décennie, il y a une explosion d'enthousiasme, voire d'inquiétude parfois, face à une nouvelle génération d'utilisateurs. Dans les années 80, on les appelait, par exemple, les computer kids, donc les enfants de l'ordinateur, du micro-ordinateur de l'époque. Je fais partie de cette génération-là, donc je l'ai vécu personnellement, et après j'ai pu faire ma propre autobiographie numérique qui a été par contre quelque chose de passionnant. Dans les années 90, on a eu par contre les enfants d'Internet, et après évidemment dans les années 2000, on a eu la vague des digital natives, donc en gros des natifs du numérique. La question est que les choses qu'on dit à propos de ces nouvelles générations connectées sont plus ou moins toujours les mêmes. C'est-à-dire, grosso modo, on a trois grands axes. Le premier est que ils sont naturellement inscrits dans les usages numériques. Le deuxième point est que il met à mal les modes de vie et même les codes culturels et les normes sociales de leurs ancêtres ou de leurs parents. Et la troisième est qu'ils sont porteurs de menaces pour la sociabilité. Si on regarde ce qu'on disait à propos des computer kids, donc des enfants du micro-ordinateur des années 80, et bien là, on disait exactement les mêmes choses. Ces enfants se désocialisent, ils s'enferment chez eux, ils passent trop de temps devant leurs écrans. Si vous relisez ce que Félix Guattari écrivait à la fin des années 80 à propos de ces enfants de l'ordinateur qu'il appelait les murets, les gens qui étaient enfermés chez eux, hein, c'était quelque chose de absolument cohérent avec ce qu'on dit sur les adolescents d'aujourd'hui. Singing a song in the morning as we locked the boss in the lavatory, taking the charge of the factory, we work autonomously. We used to bend and slave for making everything for your greed, but now we lend our labour, making only the goods that you need. Oh, singing a song in the morning as we locked the boss in the lavatory, taking the charge of the factory, we work autonomously. Why waste your years just working and working and working and working and selling yourself for a wage? Take back control of working and building and living and set an example to the age. Oh, singing a song in the morning as we lock the boss in the lavatory, taking the charge of the factory, we work autonomously. We used to bend and slave for making everything for your greed, but now we lend our labour, making only the goods that you need. Oh, singing a song in the morning as we lock the boss in the lavatory, taking the charge of the factory, we work autonomously.
Matière à penser sur France Culture et toujours avec vous, Antonio Casilli, sociologue qui avait écrit il y a déjà quelques années les liaisons numériques, mais qui continuait à travailler sur toutes les questions que nous pose Internet. Et l'une de ces questions qui est brûlante aujourd'hui, hein, c'est évidemment la question de la vie privée. Alors, il se trouve que dans Le Monde du 23 janvier, vous avez écrit une tribune avec Paola Tubaro, dans laquelle vous évoquez justement ces questions de vie privée en parlant de privacy. Vous faites une différence entre la privacy et la vie privée en ligne ?
Tout à fait. La question est que, à mon sens, il y a une puissance des mots s'ils restent situés dans leur contexte d'origine. En l'occurrence, la notion de privacy, ou privacy plutôt, est une notion que nous héritons de la jurisprudence américaine. Et surtout d'un texte publié en 1890 par deux juristes qui s'appelait The Right to Privacy, donc le droit à la privacité. La question principale est qu'il cherchait à définir ce nouveau droit et il disait c'est le droit d'être laissé en paix. Le droit d'être laissé en paix est quelque chose qui aujourd'hui semble être vraiment très très éloigné de ce qu'on recherche dans l'expérience des réseaux sociaux d'Internet. Parce qu'on pourrait pas dire que quelqu'un se rend sur Twitter parce qu'il veut être dans sa solitude ou dans un espèce d'isolement. Au contraire, on est là constamment en train de définir avec les autres quelles sont les frontières de ce qui est public et ce qui est privé. Donc à la limite, et ça c'est un gros le sens de l'ouvrage que j'avais écrit avec Paula Tubaron en 2014, un ouvrage en anglais qui parlait justement de cette question, de cette soi-disant morte de la vie privée. Et après évidemment de la tribune qu'on a publiée plus récemment, l'idée est que la vie privée n'est plus un droit individuel, mais une négociation collective. Et j'insiste beaucoup sur le fait que c'est collectif. C'est un processus qu'on réalise ensemble pour ne pas donner l'impression et pour ne pas tomber dans le malentendu de croire que je fais partie de ceux qui aujourd'hui cherchent à vous pousser à vendre vos données personnelles aux plateformes.
Voilà, on va en reparler, Antonio Caselli, mais d'abord ce que vous nous dites, c'est que aujourd'hui la privacy ne concerne plus le fait de contrôler ce que nous mettons de nous sur Internet, mais de savoir ce qui est prélevé à notre sujet, comment c'est exploité, et de pouvoir éventuellement avoir notre mot à dire.
Oui, donc en gros, c'est une question de un faisceau de droits qu'il faut définir ensemble. Et donc, y a un changement par rapport à la loi informatique et liberté de 1978 qui avait été un peu en France et en Europe le coup d'envoi d'un mouvement plus vaste dans le droit et ailleurs dans d'autres disciplines pour faire reconnaître ce besoin d'un contrôle total sur ce qui est enregistré à propos de nous. Aujourd'hui, la question est que il n'y a plus, comme dans les années 70 et 80, un ensemble d'autorités ou d'organismes ou d'entreprises qui enregistrent nos activités et nos pensées, pourquoi pas, mais c'est les utilisateurs mêmes, c'est nous-mêmes qui enregistrons et mettons en ligne de manière participative ces informations sur nous-mêmes.
Alors, vous nous dites, Antonio Caselli, nos données personnelles valent de l'argent, mais il ne faut pas qu'elles deviennent une monnaie.
Alors, ils disent, je dis que nos données personnelles sont déjà monétisées par les grandes plateformes, mais si on joue le jeu des plateformes, on se retrouve très vite dans des situations de prolétarisation des usagers. Pour faire court, la question est que, si vous regardez aujourd'hui les plateformes commerciales, elles poussent déjà chacun d'entre nous à créer ou à reconnaître la valeur économique, la valeur financière de ce que nous mettons en ligne. Mais le paradoxe est que au même instant où elle nous pousse à reconnaître que sais-je, tel clic a telle valeur, que telle vidéo qu'on a mise en ligne peut valoir pour un annonceur X, ils nous disent mais attention, tu es là non pas pour faire de l'argent, mais pour contribuer, pour être un amateur heureux, pour être un passionné désintéressé. Donc en même temps, elles nous mettent dans une situation de produire de la valeur, et en même temps, elles nous disent attention, tu ne peux pas te permettre d'être intéressé, voire d'être dans une situation de vénalité, de recherche de gain. Au contraire, tu dois rester dans ton approche qui est une approche de non-reconnaissance de ta propre contribution. C'est quelque chose de complètement paradoxal.
Un double lien, en quelque sorte.
Un double bind, certainement, Serge Tisseron. Et alors, par contre, de ce point de vue-là, comment en sortir? Et la question est que si on en sort en jouant le jeu de la monétisation, en jouant le jeu de la revente à la pièce de nos données, là, on a un problème certainement de négociation asymétrique avec les plateformes. Si je dois décider avec Facebook, voire contre Facebook, quelle est la valeur de chaque photo de chaton que j'ai mis en ligne depuis 10 ans sur la plateforme de Mark Zuckerberg, eh ben j'aurais du mal, parce qu'évidemment ils ont derrière eux des bataillons d'avocats, ils ont évidemment des structures de règles et de conditions générales d'usage qui sont complètement opaques et certainement non modifiables par un utilisateur parmi 2 milliards d'usagers déclarés. Et donc, de ce point de vue-là, je vais me retrouver dans une situation de faiblesse dans la négociation collective.
Ce que vous voulez dire, Antonio Caselli, c'est que si chacun est tenté de monnayer ses propres données, on va tous être bouffés. Qu'il n'y a de solution qu'à avancer ensemble.
Avancer ensemble et surtout reconnaître ensemble que cette valeur-là est la, non, je dirais pas la le carburant des grandes plateformes, mais au contraire, c'est vraiment les rouages, et c'est vraiment les chacun d'entre nous est un travailleur de ces plateformes. C'est ça qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître que ces données ne sont pas données au sens étymologique du terme, c'est-à-dire elles n'existent pas dans la nature d'entrée, mais elles doivent être produites par quelqu'un. Mmh. Et les personnes qui produisent les données, bah, c'est nous-mêmes. Mmh. Et donc, en tant que tels, nous devons aussi inventer des manières de gérer ce travail collectif ensemble.
Mmh. Mais alors, vous dites que dans cette négociation, dans ces discussions autour des droits, des prérogatives, vous prendrez en compte les États, les entreprises du numérique et les citoyens. Les États, on voit bien, les entreprises du numérique, on voit bien, mais les citoyens, comment est-ce que vous, moi, nous pouvons nous organiser par rapport à cela?
Ben, nous organisons par exemple via des associations de défense de nos libertés numériques, je pense à la Quadrature du Net dont je suis membre, ou à travers certains organismes qui commencent de plus en plus à se poser la question de la propriété de ces contenus numériques et de ces contributions numériques. Et là, c'est les syndicats classiques qui deviennent de plus en plus concernés par ce qui se passe sur les plateformes. Regardez ce qui se passe en Angleterre, ou en Allemagne, ou en France, ou même en Italie. Les syndicats les plus classiques, c'est la CGT, c'est la FO, c'est la CGIL en Italie, c'est les IG Metall, c'est les métallos allemands qui se posent la question de nos données et qui est propriétaire ou qui s'approprie ces données-là et qui est capable de les transformer en valeur et qui se occupe évidemment de reverser cette valeur aux usagers des plateformes numériques. C'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus clair comme une réflexion et parfois comme des initiatives qui sont mises en place par ces syndicats.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux comment cet argent est reversé, Antonio Casilli? Je comprends pas bien. Excusez-moi.
Alors, comment cet argent est reversé de manière collective, oui, sans tomber dans des dynamiques de travail à la pièce, voire oui, de rémunération à la pièce? Par exemple, et ça, c'est une proposition que d'autres avant moi ont avancée, et moi, personnellement, je me range dans cette lignée de pensée, c'est à travers, d'abord, une fiscalité du numérique qui prennent en compte le travail invisible des usagers, donc le fait que chacun d'entre nous, par ses clics, par ses contributions, par ses données, ajoute de la valeur à ces plateformes, et en plus, donc évidemment, une fiscalité qui soit capable de prendre en compte ça, est aussi une fiscalité qui va créer des recettes qui peuvent être utilisées par des politiques redistributives. Donc en l'occurrence, l'une de ces politiques pourrait être un revenu universel. J'avoue que, étant donné les dernières évolutions du revenu universel et les personnes qui commencent à se ranger à cette idée, je suis de plus en plus mal à l'aise. C'est-à-dire que quand Manuel Valls, Berlusconi commencent à parler, ou Mark Zuckerberg même commence à parler de revenus de base, je me pose la question de quelles sont les alliances politiques qui se préparent et si j'ai envie, d'un point de vue politique, d'être dans le même lit avec l'ennemi. Donc, de ce point de vue-là, je me dis, je ne suis pas marié à une idée de revenu de base, pourvu qu'on puisse envisager des politiques redistributives cohérentes avec les exigences de notre société et la manière de créer richesse dans nos sociétés.
Actuellement, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, est sur ce créneau dans les négociations européennes. Qu'est-ce que vous pensez des positions de la CNIL? Vous êtes en accord? Vous avez un écart par rapport à ces positions?
Je suis généralement en accord avec la CNIL parmi les différentes autorités de protection de la vie privée en Europe et celle qui a supporté une doctrine qui s'est imposée, par exemple, dans le dernier règlement européen et qui quand même a été pionnière et a anticipé des tendances qui après se sont confirmées. Donc, enfin, on citait la loi de 1978, on peut citer aussi le principe allemand de 83 sur l'autodétermination informatique qui était crucial. Aujourd'hui, par exemple, la CNIL fait un travail que je salue, qui est un travail aussi prospectif, c'est-à-dire de faire effectuer recherches sur les usages de demain, par exemple sur les objets connectés, par exemple sur la ville connectée. Elle publie des cahiers de recherche que j'invite à lire et qui sont très bien faits. Donc c'est pas seulement un organisme politique, mais aussi un organisme de réflexion sur la vie privée de demain.
Et alors, Antonio Casilli, vous qui êtes sociologue, vous évoquez aussi le sort de personnes qui sont souvent oubliées autour de ces questions de high privacy. Ce sont ceux que vous appelez les ouvriers du clic. Est-ce que vous pouvez un peu nous préciser de qui il s'agit? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler et vous nous dites que c'est très important de prendre en compte leurs droits.
En effet, donc on a tendance à penser que les producteurs de données, donc ceux qui mettent en ligne les données et aussi les métadonnées, c'est-à-dire les informations qui sont connectées, par exemple au contenu qu'on publie en ligne, c'est seulement les utilisateurs lambda, donc comme vous et moi, inscrits sur une plateforme. À chaque fois que je publie une photo de mes vacances et que j'ajoute en plus des labels sur mes vacances, je suis en train de produire de la donnée. Toujours est-il, depuis un bon moment, depuis au moins une dizaine d'années, on a de plus en plus de nouvelles plateformes, qu'on appelle des plateformes de micro-travail, qui recrutent, n'embauchent pas, mais certainement vont chercher des personnes qui sont des micro-travailleurs payés à la pièce. Donc en gros, il s'agit de personnes qui acceptent d'effectuer des opérations qui sont parfois des opérations de qualification de contenu en ligne. Donc par exemple, encore une fois, j'ai une photo, j'ajoute une description. Ou alors j'ai un texte, je le retranscris ou je le traduis.
Donc c'est pour rendre plus facilement utilisables nos données personnelles par les logiciels de machine learning, en fait.
Par exemple. D'accord. Ou par les algorithmes de reconnaissance textuelle.
D'accord. C'est donc faciliter un travail qu'actuellement l'intelligence artificielle ne peut pas faire toute seule.
Exactement. Parce qu'on a tendance à penser que l'intelligence artificielle est intelligente et en plus qu'elle est artificielle, mais j'ai du mal avec les deux définitions. Donc les intelligences artificielles ont besoin d'apprendre, c'est pour ça qu'on parle de machine learning, donc apprentissage machine, mais il faut que quelqu'un enseigne. Et donc, ce qui enseigne ne sont pas des data scientists ou des ingénieurs informatiques sublimes qui sont capables de prendre ces logiciels, les façonner selon leur esprit merveilleux, mais au contraire, il s'agit de personnes qui effectuent un travail très humble, invisible, pas reconnu, certainement mal payé, qui sont payés 1 centime, 2 centimes pour ajouter une description, pour regarder 10 secondes d'une vidéo et pour, mettre des balises. Et ces personnes-là sont payées 1 centime et 2 centimes. Pourquoi acceptent-ils d'effectuer un travail de ce type? Eh bien, parce que souvent, ils sont résidents dans des zones pauvres de notre planète. Parfois, il s'agit de nos quartiers. Parfois, il s'agit de pays tiers en voie de développement ou pays émergents comme la Malaisie, l'Indonésie, la Nigérie, le Madagascar, qui ont des taux de rémunération mensuels et surtout des pourcentages de chômage très importants qui poussent les gens à accepter ces travaux qui sont effectivement des petits boulots.
Toutes les technologies ont leurs prolétaires et les technologies de l'intelligence artificielle ont les leurs aussi.
Exactement.
À l'époque des jeux vidéo, on parlait beaucoup du fermage, les gens qui payaient des petites mains pour faire monter leur personnage en puissance. Là c'est les ouvriers du clic, vous avez raison de nous le rappeler. Alors écoutez, on va arriver à la fin de cette émission, Antonio Casilli, et je voulais simplement vous demander, puisque beaucoup de parents nous écoutent, si vous aviez un conseil à donner peut-être aux parents pour préparer leurs enfants à avoir le meilleur usage possible du numérique, des plateformes, des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire ?
Investissez-vous dans des initiatives sociales qui permettent de augmenter l'esprit critique et la tendance de vos propres enfants à mettre en doute ce que est dit, ce qui est enseigné, ce qui est vendu autour de ces technologies. La question est que les enfants et les adolescents ont une puissance d'imagination qu'il ne faut pas brider. Oui, et donc, c'est une éducation critique qu'il faut encourager.
Très bien. Culture du doute et de la créativité. Ben, écoutez, vaste chantier. Hein. Merci beaucoup, Antonio Casilli, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et rappelons-nous, il n'y a pas d'homme-machine, il n'y a pas de machine-homme. Il n'y a que des hommes et des machines et des prolétaires des machines. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Matière à penser, Antonio Casilli, Benjamin Vignal, Céline Leclerc, Anne-Pascale Desvignes et Serge Tisseron.